24 décembre. Margot. C'est l'effervescence parmi les clients de l'hôtel. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le point d'orgue du voyage. La pépite de chocolat sur le cookie. La rencontre avec le Père Noël. 24 décembre oblige. Les activités seront placées sous le signe du vieux bonhomme à barbe blanche en costume rouge. Visite du Santa Claus Village, puis du Santa Park. Voilà qui promet une belle overdose de Noël. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Je ne cesse de penser aux paroles de Tania, à ce mal-être qu'elle essaie d'entretenir, à la joie qu'elle tient à distance pour que l'absence lui paraisse moins insupportable. Un bus a été affrété pour emmener tout le monde à bon port. Les enfants sont surexcités à l'idée de rencontrer celui qu'ils attendent chaque année avec autant d'impatience que d'inquiétude. Ont-ils été assez sages pour recevoir des cadeaux? Même parmi ceux qui n'y croient plus, l'enthousiasme est palpable. On ne doit pas être loin de la fameuse magie de Noël. Petite, Maggie et moi élaborions des stratagèmes pour essayer de l'apercevoir. Une fois, nous nous étions mis en tête de boire des litres de café pour nous maintenir éveillés jusqu'à minuit. Nous en avions siroté en douce toute la journée. Non seulement ça n'avait pas fonctionné, nous nous étions lamentablement endormis à 22h, mais ça nous avait rendus malades. C'est lors d'un énième passage aux toilettes en catastrophe que j'avais entendu les bruits étouffés de nos parents déposant les cadeaux sous le sapin. À cette époque, je commençais déjà à me dire que c'était bizarre, cette histoire, qu'il n'était pas possible pour un seul homme de passer dans chaque maison du monde en une seule nuit. Je me souviens d'avoir ressenti un mélange de déception, mais aussi de fierté de devenir grande, de faire partie du groupe de ceux qui savaient. Je n'avais rien dit à Maggie. C'était mon devoir d'aînée de 12 minutes de la préserver de la vérité. Jusqu'au jour où elle serait prête à l'entendre. Ça avait pris 3 Noëls de plus pour elle. J'avais joué le jeu de la surprise pour qu'elle se sente moins seule. Maintenant que j'y pense, je crois que je ne lui ai jamais avoué que j'avais découvert le poteau rose bien avant elle. Nous nous garons sur un parking à proximité des fameux pylônes qui délimitent le cercle polaire. Il fait encore et toujours nuit. Le site est éclairé grâce à une multitude de guirlandes lumineuses. On se croirait dans l'un de ces décors miniatures que l'on peut voir dans les jardineries en décembre. C'est assez étrange, mais très féerique. Je dois bien le reconnaître. Se dresse devant nous une immense maison en bois, flanquée de 2 énormes sapins richement décorés. Les enfants, le nez en l'air, poussent des cris de stupéfaction et de joie. Un bonhomme de neige artificiel, presque aussi grand que les arbres, complète le décor. C'est sûr qu'une maison telle que celle-ci, construite sur une plage de sable fin et réchauffée par les rayons du soleil des Seychelles, ça fonctionnerait beaucoup moins. La neige qui crisse sous nos pas ajoute à l'authenticité. Nous grimpons les quelques marches qui nous séparent de l'entrée et lorsque les portes vitrées s'entr'ouvrent, je ne peux à mon tour retenir mon émerveillement. L'intérieur est bien plus vaste qu'il n'y paraît de l'extérieur. De petites échoppes proposant des décorations, costumes de Noël, friandises et autres boissons chaudes sont réparties le long d'une allée centrale qui grouille de monde. Touristes et lutins, les bras ensevelis par des lettres et des paquets cadeaux, se croisent. La mise en scène est parfaitement réussie. Ça sent bon la cannelle, l'orange et les marrons chauds. Partout où mes yeux se posent, il y a des décorations, des nœuds en satin, des sucres d'orge, des pommes de pin, des petits anges en céramique. J'ai un pincement au cœur en pensant à ma sœur qui aurait dû vivre ce moment à ma place. Elle aurait adoré. Heureusement que je suis partie avec une valise quasi vide. Je vais pouvoir la remplir de tout un tas de souvenirs de cet endroit incroyable, une manière de lui rapporter un peu de son rêve lapon. Je prends le temps de rentrer dans chaque petite boutique et de choisir des objets qui feront plaisir à Maggie. Des bougies parfumées, des boules de Noël, un service à chocolat chaud entièrement décoré à la main que l'on m'emballe avec soin, ainsi qu'un plaid doux et épais d'un rouge profond que je fais broder à ses initiales. Je craque aussi sur quelques bricoles pour moi, dont un bracelet doré avec une pampille en forme de flocon de neige. Histoire de ne pas oublier Freya et son sauna à la finlandaise. Après 2 bonnes heures de shopping, chargée de sacs en papier à l'effigie de l'hôte du lieu, nous sommes appelés par le guide pour enfin faire sa connaissance. Le bureau du Père Noël se trouve à l'étage de la maison, au bout d'un couloir au mur tapissé de photos encadrées, le représentant sous toutes les coutures. Nous attendons notre tour en file indienne, et j'aperçois devant moi Tania et son père, que je rejoins. « Bonjour » lançai-je. « Bien dormi ?»« Hein ?» me répond la jeune fille, qui a retrouvé son langage habituel. « Très bien. Enchaîne Alexandre. Encore merci pour les produits de beauté que vous avez offerts à ma fille. Ça lui a fait sa soirée. De rien, c'était pas grand-chose. Au contraire. Et d'ailleurs, pour vous remercier, j'aimerais vous offrir quelque chose, moi aussi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais non, ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Je peux au moins vous proposer quelque chose à boire, alors. S'il vous plaît. Insiste-t-il. D'accord, dans ce cas, je veux bien un mochaccino. Un mochaccino, ça marche. Et toi, ma puce, je te prends un latte? Hein? Rétorque Tania, ce qui ne semble pas déstabiliser son père. Je reviens vite, nous promet-il avant de tourner les talons. Nous continuons à faire la queue sans un mot, pendant des secondes qui me paraissent interminables. Et comme le silence m'a toujours mise mal à l'aise, je ne peux pas m'empêcher de le rompre. Tu n'es pas un peu vieille pour t'asseoir sur les genoux du Père Noël? Même si c'est pour dire n'importe quoi. C'est mon père qui y tient absolument, me rétorque Tania. À quelques mètres de nous, la porte du bureau laisse sortir une mère avec ses deux enfants, visiblement terrorisés et en pleurs. Je me suis toujours demandé quelle mouche avait piqué le DRH qui a recruté le tout premier Père Noël. Parce que, pour émerveiller les enfants, un géant avec un gros bide et une énorme barbe blanche, on a fait mieux niveau casting. Tania éclate de rire. Craignant qu'elle ne se referme, j'enchaîne aussitôt. Je suis sérieuse? Comment ne s'est-il pas rendu compte que ce gars allait foutre les jetons aux gamins? Hé, Georges, je dois embaucher un type pour une animation autour de Noël qui devra distribuer les cadeaux aux gosses et qu'on appellera le Père Noël. J'ai recruté Bobby, tu sais, cette baraque de 2 mètres qui pèse 100 kilos. Va faire un tabac avec les mômes, tu vas voir. Tabac, tu parles? Des générations d'enfants traumatisés d'avoir dû s'asseoir dans des centres commerciaux bondés sur les genoux d'un homme avec une barbe synthétique sécrétant une odeur bizarre. Et ça marche. Tania est pliée en deux. Cela fait même poindre quelques larmes au coin de ses yeux. Une douce chaleur se répand à l'intérieur de moi. Je me sens comme Yoda qui vient de réussir à retirer le vaisseau de Luke Skywalker du fond d'un lac boueux. Enfin quelqu'un qui contredit cette idée reçue que les personnes qui travaillent aux ressources humaines n'ont aucun humour. Nous sommes très drôles. Excepté Julie et ses vacances à Trou-sur-Mer, bien entendu. Mais elle vient de la compta, c'est pour ça. Tout le monde sait que les gens qui bossent à la compta sont à part. Lorsqu'Alexandre nous rejoint avec les boissons chaudes, les joues de Tania sont encore roses du fou rire qu'elle vient d'avoir. Ses yeux se posent sur sa fille, et je devine au léger tremblement de ses mains l'émotion qui l'étreint. Puis il tourne la tête vers moi et me remercie silencieusement. Perdu dans nos pensées, nous buvons nos boissons jusqu'à ce que mon tour arrive. Un lutin me fait signe d'entrer dans le bureau et de prendre place sur le banc recouvert de velours rouge qui se trouve à côté de l'immense fauteuil où est assis un Père Noël pour le moins impressionnant. Tu m'étonnes que les gamins de tout à l'heure soient sortis en larmes. Le type doit frôler le 1m90 avec une carrure de rugbyman. Mais le pire, c'est son costume volumineux et ses bottes qui ne laisseraient pas la moindre chance aux orteils qui s'aviseraient de traîner à proximité. Je sens les miens se recroqueviller de terreur à l'intérieur de mes chaussures. Intimidée, je le salue avant d'aller m'asseoir, rassurée que ce soit sur un banc plutôt que sur ses genoux. Durant notre attente dans le couloir, j'ai eu tout le loisir de lire les affiches sur les murs indiquant le nombre de langues parlées par le vieil homme, dont le français. « Bonjour, comment t'appelles-tu » me demande-t-il d'une voix caverneuse que je soupçonne d'être amplifiée par un micro. « Margot, est-ce que tu as été sage cette année, Margot ?» Je suis sur le point de pouffer, mais mon regard se pose sur les bottes et je me retiens. « Oui, très sage, Père Noël. J'ai bien mangé tous mes petits pois et mes épinards. »«
Je suis très fier de toi, Margot, »
poursuit-il, très professionnel.
« Quel cadeau as-tu envie que je t'apporte cette année ?»
La Barbie chevelure des mères. Je rêvais de cette poupée à la très longue chevelure blonde lorsque j'étais petite. Je ne sais pas vraiment pourquoi, puisqu'immanquablement, celle que je recevais finissait avec une coupe au carré. Mais je décide de répondre sérieusement à la question posée. Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu aides une adolescente, Tania. Elle s'oblige à tenir la joie à distance depuis qu'elle a perdu sa mère il y a un an. Cette période de l'année n'est pas facile pour elle. Je ne suis pas certaine que le colosse en costume rouge ait tout compris. En revanche, il a sûrement deviné qu'il allait avoir du mal à l'emballer dans un paquet cadeau.
« Je vais faire de mon mieux, Margot, »
dit-il imperturbable.
« Et je te souhaite un très joyeux Noël. Ho, ho, ho. »
Joyeux Noël à vous aussi, Père Noël. Jamais je n'aurais cru qu'une telle phrase sortirait un jour de ma bouche. Un lutin me fait signe de me lever. Il est temps de laisser la place au suivant. Juste avant de partir, je lui demande si je peux prendre une photo et sors mon téléphone. Il me fait non de la tête et me montre l'affiche avec les tarifs. Je m'étouffe à la vue des prix, décline la proposition et range mon téléphone. Maggie et moi avons essayé de l'attraper pendant des années. Je me fais la promesse de revenir ici avec elle. La visite se poursuit avec le bureau de poste du Père Noël. Au mur entièrement tapissé d'étagères en bois recouvertes de lettres. On peut acheter des cartes postales, des enveloppes, du papier et des timbres à l'effigie du lieu. Au milieu se trouvent deux grosses boîtes aux lettres. Une jaune, pour les envois de courrier immédiat avec le sceau du cercle polaire, et une rouge, dans laquelle il est possible de glisser une missive que les elfes posteront pour le Noël prochain. J'adore cette idée. Et je m'empresse d'acheter une carte pour Maggie. Je suis même à deux doigts de m'en prendre une. Je sors quelques instants du bureau de poste pour écrire ma lettre au calme. À travers les vitres, j'aperçois Alexandre essayant désespérément d'intéresser sa fille, apparemment sans grand succès. Alors que je l'observe faire tourner les présentoirs de papeterie, il me vient une idée. Je me dépêche de cacheter l'enveloppe à l'adresse de ma sœur, puis je retourne à l'intérieur. « Vous vous êtes laissé tenter par l'envoi d'une carte ?» me demande Alexandre, lorsqu'il me voit me diriger vers la boîte aux lettres rouges. Ma sœur va adorer la recevoir dans un an. Le plus dur va être de réussir à tenir ma langue d'ici là pour ne pas gâcher la surprise. C'est pour ça que j'évite d'acheter mes cadeaux trop à l'avance. Je suis incapable de ne pas les offrir et je suis bonne pour en racheter. « Nous aussi, on pourra en envoyer, non ?» propose Alexandre à Tania. « Mamina nous tanne chaque été pour recevoir une carte pendant nos vacances. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Que penses-tu de celle-ci, avec ses petites clochettes en relief ?» demande-t-il à sa fille. Hein ? Alexandre prend ça pour un oui et se dirige vers l'une des caisses. Je saute sur l'occasion pour parler à l'adolescente. Je tiens un journal intime depuis des années. Tania lève les yeux vers moi. Je sens bien qu'elle se demande en quoi cette information représente un quelconque intérêt pour elle. Quand j'avais ton âge, j'ai découvert la série Dawson. Depuis, j'ai remplacé mon cher journal par cher Joey. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose de plus réconfortant à écrire à quelqu'un, fût-il à un personnage de fiction. Tania se dandine d'un pied sur l'autre. Tu devrais lui écrire.
À qui ?
À ta mère. Je lui réponds avec une légère hésitation. Peut-être que cela te ferait du bien. Peut-être qu'elle te semblerait ainsi plus présente.
N'importe quoi,
grommelle-t-elle, sans pour autant tourner les talons. J'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit hier soir. Tu sais, au fait de ne pas vouloir rire parce que le retour à la réalité, quand tu t'arrêtes, est trop dur. Si tu lui faisais une place dans ton quotidien, une place autre que le souvenir de son absence, si tu t'adressais à elle dans un journal, tu n'aurais pas à t'empêcher de rire, ce que tu pourrais lui raconter ensuite.
Vous aussi, vous allez me dire qu'elle ne voudrait pas me voir malheureuse,
me lance-t-elle sur le ton du défi. C'est ce que j'ai failli dire hier, oui. Mais surtout, elle n'aimerait pas que penser à elle te soit douloureux.
Franchement, je vois pas la différence.
Je crois qu'il y en a une pourtant. Être heureuse, c'est sûrement un peu trop te demander là tout de suite. Je vais me sentir très vieille en te disant ça, mais le temps fera son office. Par contre, l'urgence, c'est d'adoucir la douleur, le manque, rendre la vie supportable à défaut de mieux.
Et comment ça pourrait m'aider de penser à elle tous les jours en lui écrivant, hein ? Ça me fait trop mal. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle ne reviendra pas, elle est morte, morte !
J'étouffe son cri en l'entourant de mes bras. Bravo, Margot. Pour lui avoir soumis ta proposition au beau milieu du bureau du Père Noël. Brillante idée. Je m'attends à ce que Tania me repousse pour rejoindre son père, mais elle n'en fait rien. Au lieu de ça, son corps s'appuie contre le mien, petit à petit, et elle se met à sangloter. Je ne dis rien. Je lui caresse juste les cheveux en essayant de contenir mes propres larmes.
« Joey, elle ne vous répond jamais ?»
me demande-t-elle enfin d'une voix encore chevrotante au bout de... minutes qui me paraissent interminables. Non. Mais je m'imagine qu'elle le fait. J'entends sa voix quand je lui écris. Enfin, celle de sa doublure française, évidemment. J'imagine ses mimiques,
Dans la série, elle faisait toujours des sortes de grimaces avec sa bouche. C'est sans doute pour ça que j'ai pris quelqu'un dont je pouvais me représenter le visage plutôt qu'une amie imaginaire. Tania n'ajoute rien. Son souffle redevenu régulier, elle s'écarte de moi. Je ne sais pas si je l'ai convaincue. Mais j'ai planté une graine quelque part dans son esprit. J'espère qu'elle la laissera germer un peu et l'arrosera un jour. Du coin de l'œil, j'aperçois son père qui est resté en retrait. Ça doit faire une éternité qu'il est passé à la caisse pour sa carte postale, mais il n'est pas intervenu. Même s'il n'est pas tombé sur la bonne jumelle, il a trouvé une épaule supplémentaire pour sa fille. Je le rassure d'un signe de tête, et je devine qu'il n'attendait que ça pour laisser rentrer de l'air dans ses poumons. Comment être un soutien quand on est soi-même en deuil? Et sinon, est-ce que t'as vu la taille des bottes du Père Noël? Je lance, histoire de faire redescendre la pression. Ça doit envoyer du lourd quand il appuie sur l'accélérateur du traîneau. Tania me sourit. C'est fugace, mais ça me suffit. Elle rejoint son père. Est-ce que son pas semble plus léger? Je me fais sûrement des idées, mais je choisis d'y croire. Après tout, le Père Noël exauce tous les souhaits, non? C'est ce que Maggie dit toujours, en tout cas.